Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Queen Amiga said, "Low the herb, it's good for the nerve." Talking about the good cannabis, it is the sweetest herb when me just can't resist.
Bonjour à tous. Du cannabis contre l'épilepsie, l'autisme, la sclérose en plaques ou le cancer. En Grèce, comme dans 16 pays d'Europe, des associations de patients ont réussi à faire évoluer les médecins. La plante, débarrassée de la substance THC qui donne à ses utilisateurs le sentiment de planer, a des vertus médicales certaines. Le ministère de la Santé a donné son accord. Des médicaments à base de cannabis pourront être mis prochainement sur le marché, suivant ainsi la démarche de quelques pionniers qu'a rencontré à Athènes Charlotte Stevenard.
Assise dans un bar de Néa Smyrni, une banlieue d'Athènes, une mère de famille fume cigarette sur cigarette. Elle ne souhaite pas donner son nom. Après des années de crise violente, les médecins ont finalement diagnostiqué chez sa fille de 23 ans un syndrome de Lennox-Gastaut, une forme d'épilepsie rare qui provoque une mort précoce. Après avoir essayé tous les médicaments sur le marché, sa mère a cherché d'autres solutions.
Jusqu'à il y a 2 ans, j'étais une mère plongée dans le désespoir. Je voyais la situation de ma fille empirer. Je ne pouvais rien faire d'autre. Même notre médecin ne pouvait rien faire. C'est là que j'ai lu par hasard sur un forum internet que la mère d'un enfant soigné à l'hôpital pédiatrique d'Agia Sophias à Athènes demandait des informations sur le cannabis pour arrêter les crises d'épilepsie de sa fille. Ça m'a pris une année entière pour me renseigner sur le cannabis avant de sauter le pas. Je savais à quel point le syndrome de Lennox-Gastaut était dangereux. Je voyais ma fille prendre de plus en plus de médicaments différents, donc il fallait que je trouve quelque chose d'autre.
Cette mère en parle à son médecin de façon complètement informelle. Il lui donne son aval pour commencer une thérapie à base d'huile de cannabis sans THC, donc sans cette substance qui fait planer. Un an plus tard, la situation est loin d'être réglée, mais les résultats observés sur sa fille lui ont redonné de l'espoir.
Aujourd'hui, elle pèse 52 kilos contre 137 auparavant. Elle commence à mettre en pratique tout ce qu'elle a appris avant pour gérer ses crises. On voit qu'elle commence à avoir une certaine maturité, sans cette folie qui l'accompagnait. Avant, elle avait un problème, elle voyait tout de façon inversée. Désormais, ce syndrome a disparu et les crises d'épilepsie ont énormément diminué. Elle ne prend plus que 3 médicaments contre 17-18 auparavant et nous continuons à diminuer les doses.
Avant de se lancer dans l'aventure avec sa fille, elle est allée consulter un des pionniers du cannabis médical en Grèce.
Je m'appelle Yorgos Economopoulos, je suis médecin et ces dernières années, je me suis surtout intéressé aux questions de drogue et de cannabis.
Sur l'étagère en bois sombre à côté de son bureau, trône le livre qu'il a écrit sur l'usage du cannabis médical. Il sort une petite bouteille en verre teinté d'un placard.
Alors ça, c'est un cannabinoïde légal, le CBD, qu'on appelle aussi cannabidiol. Ça, c'est une pipette. On en met une goutte sous la langue. C'est relativement peu, mais c'est quand même ça qui active certains récepteurs spécifiques du corps qui communiquent avec le cerveau. Il n'y a pas d'effet secondaire, pas de contre-indication et pas non plus d'effet euphorique.
Ce cannabis sans THC qui ne fait pas planer était déjà légal depuis plusieurs années en Grèce. Mais jusqu'à cet été, il n'était pas considéré comme un médicament, donc les médecins ne pouvaient pas officiellement le prescrire. En juillet, plusieurs ministères grecs ont reconnu les propriétés thérapeutiques du cannabis avec ou sans THC, comme c'était déjà le cas pour les opiacés utilisés dans le traitement de la douleur. Mais certains, comme Jackie Pitas, une activiste canadienne mariée à un grec, estiment que le spectre d'utilisation du cannabis pourrait être encore plus large. Il y a 4 ans, elle s'est pour la première fois penchée sur la question alors qu'elle cherchait un traitement pour sa fille atteinte elle aussi d'épilepsie. D'autres parents intéressés l'ont alors contactée.
Très vite, ça n'a plus seulement intéressé les parents d'enfants épileptiques, mais aussi des adultes autistes, atteints de sclérose en plaques ou de cancer. Les gens ont commencé à m'appeler. Et quand vous commencez à vous informer sur ce sujet, vous découvrez que l'interdiction nous a été imposée pour des raisons économiques et politiques. Maintenant, je considère juste que le cannabis est une plante qui peut aider à traiter beaucoup de maladies.
Il y a un an, elle a donc décidé de créer l'association Mamacas pour dédiaboliser le cannabis médical.
Je voulais monter une association de parents pour faire changer la loi et informer les gens, organiser des séminaires, éduquer le personnel médical. Pour le nom, j'ai choisi Mamaka, maman pour le cannabis, car tout de suite, cela donne un autre profil au groupe. Quoi, ce sont des mamans du cannabis, immédiatement cela fait penser que ce n'est pas mal si les parents sont OK.
Mais difficile pour l'instant de trouver des médecins qui connaissent bien les applications thérapeutiques du cannabis à cause du manque de recherche mais aussi du tabou qui entoure ce produit. Pourtant, le docteur Yorgos Economopoulos explique que dans certains pays, on est allé déjà beaucoup plus loin. Quelques chercheurs israéliens, espagnols et américains travaillent dessus et la France autorise depuis 2013 déjà la mise sur le marché de médicaments à base de cannabis.
Le cannabis médical est légal dans 30 États d'Amérique et dans 16 pays d'Europe. Il peut être prescrit sur ordonnance. En Italie, c'est l'armée qui le cultive pour le secteur pharmaceutique national. En Israël, il y a 30 000 patients traités légalement avec du cannabis, notamment pour les cancers. Et en Espagne, tout est légal, on n'a juste pas le droit de l'exporter.
Le gouvernement grec prépare actuellement une loi qui devrait permettre à des entreprises de cultiver le cannabis en Grèce, de le transformer en médicaments et de le vendre. Le parti communiste dans l'opposition lui reproche d'avoir fait ce pas uniquement pour des raisons économiques et d'ouvrir grand la porte aux géants pharmaceutiques attirés par ce nouveau marché en Grèce.
Aslansın kınında. C'est un des plus grands romanciers turcs du XXe siècle, un tenant du réalisme social qui a passé sa vie à raconter la vie des plus pauvres dans des livres comme L'escroc ou Sur les terres fertiles. Orhan Kemal a désormais son musée à Istanbul. On y raconte une vie ponctuée par la prison et la censure du pouvoir. Visite avec Anne Andlauer.
La plupart de ses lecteurs ne connaissent Orhan Kemal, l'homme derrière l'écrivain, que ce sourire de biais sous une fine moustache, un élégant chapeau de feutre et un pardessus sombre. Bref, l'homme de la photo sur la couverture de ses œuvres. Le musée Orhan Kemal, comme le veut l'exercice, dévoile un peu de l'intimité de l'un des plus grands auteurs turcs du XXe siècle, à travers les yeux de son dernier fils qui a aménagé les lieux dans une rue paisible du quartier branché de Cihangir, en contrebas de la place Taksim. Il faut demander la clé au magasin juste à côté pour pénétrer dans cet immeuble de 3 étages. Les murs sont couverts de photographies de l'enfance de l'écrivain à sa dernière décennie de vie, les années 1960. Des murs de photos et bien sûr des étagères de livres. Ceux qu'il a écrits, une cinquantaine, dans leur toute première édition. Ceux qui ont été traduits dans pas moins de 18 langues. Et ceux qui lui sont consacrés, et il y en a beaucoup. Le fils de l'auteur a confié au musée de nombreux objets personnels, ses lunettes à grosse monture, sa montre, ses affaires de toilette. La visite mène jusqu'à la chambre d'Orhan Kemal, chambre reconstituée car en réalité il n'a jamais vécu ici. Sur le lit de l'auteur, un moulage de son visage réalisé après sa mort. À côté du lit, le fameux pardessus surmonté du chapeau de feutre. Devant le lit, le bureau couvert de cuir vert et la machine sur laquelle il a écrit tous ses succès. Le musée ne laisse qu'entrevoir la figure très politique que fut aussi Orhan Kemal. Ses engagements, son souci des plus pauvres et des plus marginaux qui ont fait de lui un romancier du réalisme social. Ses idées antimilitaristes lui ont d'ailleurs valu près de 5 ans de prison, prison où il partageait une cellule avec l'immense poète Nazım Hikmet, mort en exil à Moscou. On en apprend peu également sur les nombreux petits métiers qu'a exercé Orhan Kemal avant de connaître le succès et qui ont tant compté dans son œuvre. Sous le musée, le fils de l'écrivain a créé la réplique du Iqbal Karvesi, un café du vieil Istanbul où il avait ses habitudes, l'endroit parfait pour boire un thé et se plonger dans l'œuvre d'Orhan Kemal.
Les habitants du comté d'Antrim en Irlande du Nord vont devoir s'adapter et la petite route des Dark Ages est une célébrité mondiale. Cette voûte de hêtre est la route du roi dans la série Game of Thrones et à ce titre assaillie par les touristes, ce qui n'était pas vraiment sa vocation initiale. En Irlande, Julien Lagache.
À l'origine, il y avait près de 150 arbres plantés là par le propriétaire de Grace Hill House, un petit manoir géorgien auquel on arrive précisément par Brega Road, le nom officiel des Dark Ages. James Stewart voulait impressionner ses ses invités lorsqu'ils empruntaient cette ligne droite à la chaussée irrégulière et chaotique, entourée de champs où les hêtres semblent être les gardiens de la route. Lorsqu'ils sont plus touffus, ils lui confèrent un caractère inquiétant, voire surnaturel. Mais depuis, beaucoup ont subi les affres du temps, ainsi que des tempêtes à répétition qui ont arraché ou endommagé leurs branches, d'où l'inquiétude des habitants du coin, autrefois seuls à emprunter ce chemin qui attirait tout au plus une centaine de curieux contre plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui, séduits notamment par les circuits de visite des lieux de tournage de Game of Thrones. Certains riverains ont craint que ce nouvel afflux ne nuise au site jusqu'à ce que les pouvoirs publics réagissent après que des photos ont circulé sur les réseaux sociaux. On y voyait des dizaines de véhicules garés sur le bas-côté et autant de touristes arpenter les Dark Ages pour les immortaliser sur leur smartphone. Il y avait donc urgence à protéger le sol et les racines de ces hêtres qui datent du 18e siècle. Les autorités ont donc interdit la circulation sous peine d'une amende de 1000 livres sterling, soit un peu plus d'un millier d'euros. En parallèle, deux projets de réaménagement sont à l'étude, dont un qui envisagerait la création d'un tunnel pour maintenir le trafic sans abîmer la route, de quoi démontrer que les pouvoirs publics sont parfaitement conscients de la valeur patrimoniale et touristique des Dark Ages. Imagine.
En pleine campagne alsacienne, dans le village de Kirwiller, le Royal Palace est un des trois grands music halls français qui ne craint pas la comparaison avec le Lido ou le Moulin Rouge. Ici, on cultive sa différence avec les géants parisiens et on affiche 200 000 spectateurs par an. Le Lido au chant, c'est le reportage de Corinne Fugler.
Au début des années 80, le Royal Palace était encore un restaurant familial qui faisait dancing en fin de semaine. Petit à petit, l'établissement s'est agrandi et transformé. Il emploie aujourd'hui une bonne centaine de personnes, dont une trentaine d'artistes venus du monde entier. Le succès du Royal Palace est dû à ses spectacles maison, imaginés et créés sur place, renouvelés chaque année, alors que les grands music halls parisiens présentent leurs revues plusieurs années de suite. Pierre Meyer, son PDG.
On est dans un petit village, 450 habitants, et s'il y a 200 000 personnes qui viennent, donc c'est pas les gens de la région seulement, ils viennent de toute la France, d'Allemagne, de Belgique, Suisse, etc. Il y a énormément de clients qui reviennent tous les ans voir le nouveau spectacle. Par rapport à mes collègues à Paris qui créent un spectacle tous les 10, des fois 17 ans, moi j'ai tous les ans besoin de renouveler. Il faut que ça plaise, il faut pas décevoir. Pour moi, tous les ans, c'est un pari. Rien n'est acquis, il faut mettre le maximum.
Le Royal Palace vient tout juste de lancer sa nouvelle revue « Miss et Mystère » autour d'un prestidigitateur néerlandais, Christian Farla, Merlin d'Or 2017, l'Oscar du magicien. Comme il se doit, Christian Farla met ses partenaires en cage et les découpe en morceaux. Mais Pierre Meyer prépare déjà la prochaine revue. Il parcourt le monde pour débusquer de nouveaux talents et recruter des danseurs.
On fait tous les ans 4-5 castings pour trouver les plus beaux, les meilleurs danseurs, et ainsi que les numéros d'attraction. On fait des contrats 2 ans à l'avance, donc là je pars dans beaucoup de festivals du cirque pour découvrir même des écoles de cirque dans les pays de l'Est où il y a énormément de talents qui sortent, où il faut chercher le numéro d'exception.
Pas facile de dénicher la perle rare. Patrick Riandière, le directeur artistique, accompagne Pierre Meyer dans ses voyages.
C'est très difficile de trouver une danseuse jolie, grande, techniquement supérieure à d'autres. C'est aussi un charisme, la beauté. Et donc oui, ça nous arrive de faire des auditions avec 150, 200 et puis de ne pas avoir le waouh, voilà, comme on l'appelle avec M. Meyer. C'est trouver la perle rare. Voilà. L'année dernière, on a fait Londres, on a fait Kiev, on en a fait une audition ici, on a fait Paris également, mais on a eu des années où on était en Biélorussie, on a fait Cuba déjà, on était en Hollande également. Puis on essaye à chaque fois d'avoir un petit peu de panachage dans le groupe, pas que des Françaises, pas que des Russes, pas que des Australiennes. Pour éviter qu'il y ait des clans aussi, ça c'est important, pour que la famille soit soudée, il faut des gens d'un petit peu partout et puis en général une belle ambiance. Ouais.
Cette saison, la troupe compte des Australiens, des Cubains, des Espagnols et aussi des danseuses ukrainiennes comme Alla Samarotska, qui a fini par s'installer pour de bon en Alsace.
Je suis venue il y a 7 ans. Ici, à Kirvillers, c'est très calme. Autour, il y a beaucoup de forêts, des champs, des vaches. Et premières quelques mois, j'ai eu l'impression qu'on est vraiment dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de choses autour de nous. Et maintenant, ça me plaît vraiment beaucoup. Je trouve que c'est magnifique. On est loin de métropole. C'est très calme ici. Pas pendant le spectacle. Pendant le spectacle, le théâtre est plein. Il y a toujours du monde. Mais quand on travaille pas, on adore la vie ici.
Les matinées du Royal Palace attirent de nombreux seniors qui arrivent à Kirvillers par car entier. Les représentations du soir aussi font le plein, à un tarif très abordable, une 40aine d'euros, la moitié du prix pratiqué à Paris. Et nous dit-on, la revue alsacienne vaut bien le Lido ou le Moulin Rouge.
À Paris, je les ai tous vus à Paris, alors.
Ça vaut la peine. Il y a un mélange un peu de tout, là, le magicien, etc., etc. Oui, c'était très bien.
Très, très agréable. Très bien.
Vous aussi, vous aviez vu les revues parisiennes?
Oui, oui, oui.
Alors, ça soutient la comparaison?
Oui, oui, bien sûr. Ça vaut Paris.
Je trouve ça très bien. Ça change. C'est agréable. C'est discret. C'est autre chose que Paris. J'ai bien aimé.
Pourquoi voilà, c'est voilà. Différent de Paris?
Ça, je le garderai pour moi.
Ce nouveau spectacle, Miss et Mystère, sera joué à Kirvillers jusqu'à l'été prochain.
Et en musique, dans un tout autre style avec vous, Vincent Teval. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous nous parlez du dernier album de Goran Bregovic, le fameux compositeur des musiques de films d'Emir Kusturica.
À 67 ans, Goran Bregovic poursuit inlassablement sa croisade musicale pour un monde multiculturel et pacifié. Celui qui fut tour à tour rockstar en Yougoslavie dans les années 70, compositeur de musique de films pour Emir Kusturica notamment, incontournable figure des musiques balkanique, est aujourd'hui à la tête de l'orchestre des mariages et des enterrements avec qui il parcourt le monde depuis 15 ans et avec qui il enregistre ses disques. Le dernier en date s'intitule Three Letters from Sarajevo et rend hommage à une ville qui a toujours accueilli à bras ouverts les différentes cultures et religions. Alors ces trois lettres, ce sont trois morceaux instrumentaux qui rythment l'album avec pour fil conducteur le violon qui fait coexister les styles klezmer, classique et oriental. Trois lettres donc chrétienne, musulmane et juive, et une dizaine de chansons d'inspiration très variées avec beaucoup d'invités comme Asaf Avidan, Rachid Taha ou encore la jeune chanteuse israélienne Rif Cohen.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants. Un nouveau point sur l'actualité.
כששבת נגמרת עצובה, הוא יגיד...